Radio TV Capucin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de
Mickaël,
Athanaël
et moi-même Salim. Nous avons la chance d'accueillir dans nos studios un artiste contemporain d'origine catalane, suisse d'adoption, Mouma Soler. Avez-vous toujours été artiste ?
Non. J'ai en fait commencé mon activité artistique plutôt tard dans la vie. J'ai commencé pratiquement à 30 ans. Avant ça, en fait, j'ai été musicien, mais mauvais musicien. Donc, j'avais raté ma voix d'une certaine façon. J'étais musicien jusqu'à 24, 25 ans. Et après, j'ai quitté la musique. J'ai fait un long voyage à vélo pendant une année et demie, dans lequel je suis allé, en fait, de Barcelone jusqu'à Katmandou à l'aller-retour. Et... En rentrant de ce voyage, j'ai écrit un livre sur le voyage et puis petit à petit, je me suis quand même décidé à être artiste plasticien, donc faire du dessin, de la peinture, etc. Et puis plus tard, je suis arrivé à faire des interventions monumentales que j'appelle la sculpture sociale, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, avec des bougies, mais ça est arrivé ces derniers 15 ans.
Donc ça veut dire que l'art, c'est pas vraiment été dans votre enfance, je veux dire.
Oui et non. C'est-à-dire, moi, je suis né pendant une dictature, d'accord. Et puis, pour survivre, on pourrait dire émotionnellement, dans une dictature, il y a deux choses. Une, c'est être un révolté activiste politique, et l'autre, c'est quelqu'un qui rêve. Et puis, moi, j'ai opté pour la version rêve plutôt. J'ai joué beaucoup avec mes deux frères à imaginer, disons, des mondes différents de celui que j'habitais. Et puis, donc, je pense que beaucoup plus tard, je me suis rendu compte, en fait, que ça, c'était déjà être artiste d'une certaine façon. Mais je ne me voyais pas comme ça.
D'accord. Quelle est l'œuvre qui vous a fait connaître le plus ?
difficile à dire. Oui, probablement, il y en a une qui est très importante pour moi parce que c'est la ville dans laquelle j'habite. C'est une sculpture sociale qui s'appelle Allumons Lausanne, qui c'est en fait une intervention monumentale avec des bougies, comme celle que je vais faire ici à Melun. Mais à la grandeur de la ville de Lausanne, c'est-à-dire qu'il y avait une bougie par habitant de la ville. Et là, je trouve encore des habitants 10 années plus tard qui me disent « Ah, je m'en rappelle très bien, c'est incroyable, etc. »
Mais comment vous est venue l'idée de faire ces œuvres avec les bougies?
Je dirais, bon, il y a un aspect qui est très important dans cette activité participative, c'est en fait l'indignation. Moi, je suis un indigné avant la lettre, c'est-à-dire avant qu'il existe les indignés comme catégorie politique. Et puis, m'est venue l'idée autour de 2001, quand en fait l'Espagne était sur le point d'entrer dans cette fameuse guerre d'Irak, vous n'étiez pas né probablement, hein, une guerre que George Bush a organisée. Et puis, les gens, ils faisaient des manifestes, ils tapaient avec les casseroles dans les balcons, etc. Et tout à coup, moi, en tant qu'artiste, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui mettent, on pourrait dire, les habitants dans la rue. J'ai décidé de mettre tous les habitants d'une ville catalane qui s'appelle Girona, Gérone en français, et on a mis 78 000 bougies dans la rue, donc une métaphore de la ville entière. Et là, j'ai vu que c'était quelque chose qui était extraordinairement fort. Et à partir d'ici, j'ai décidé de structurer ces champs d'activité publiques dans le territoire pour en faire une démarche artistique complète.
Depuis combien de temps vous réalisez-vous ces œuvres?
Alors, donc, la première que j'ai construite était en 2003. Avant, je n'avais fait une sorte de préambule, une petite sculpture participative avec 15 personnes. Je l'avais fait autour de l'année 2000, déjà avec des bougies, mais des bougies très grosses, etc. Et puis, donc à partir de 2003, j'ai commencé à faire ce genre de démarches et au jour d'aujourd'hui, j'en ai déjà fait 31.
31 quand même. Qui vous contacte pour un projet de ce type et comment cela se passe-t-il?
Alors, ça peut se passer de beaucoup de façons différentes. Il y a des fois des projets que je les ai faits parce que j'avais envie de les faire. J'avais une idée, je la faisais et puis voilà. Et d'autres fois, c'est des entités comme en l'occurrence ici, que c'est le département de Seine-et-Marne qui m'a contacté pour dire ce que vous seriez d'accord de venir faire une intervention chez nous. Et voilà. Donc, c'est des fois, si ça me semble le projet bon, j'accepte. Des fois, si le projet me semble trop peu intéressant, je refuse. Voilà, ça peut être... Il y a beaucoup de cas de figure.
Oui, mais par exemple, si vous voulez faire votre projet et vous le faire sur une place, comment ça, vous obtenez cette place?
Alors, voilà. Et alors, si c'est moi qui décide, il faut que je trouve le financement. Donc, il faut que je cherche des sponsors, etc. Que je m'occupe de demander la permission, que je m'adresse donc à la police de commerce ou l'entité équivalente qui s'occupe de donner les permissions d'intervention dans les rues. Et puis à partir d'ici, donc cette structure, ils vont me demander bien sûr un projet technique avec l'implantation exacte des bougies. Donc il faut que je prenne le cadastre, que je prenne la zone, que je dessine sur ces cadastres les endroits précis. Voilà, il y a toute une procédure technique qui se rapproche pas mal d'un travail d'urbanisme ou d'architecture. Voilà.
Faites des autres œuvres qu'avec des bougies,
oui.
Sans bougies.
Oui, je fais des installations aussi, je fais du dessin, j'ai une activité d'artiste normal, si on peut dire comme ça, dessin, peinture aussi. Voilà, je fais toutes sortes de choses.
D'accord.
Dans quel pays vous avez travaillé?
Alors, je dirais des régions différentes. J'ai travaillé en Suisse romande, j'ai travaillé en Suisse allemande aussi, j'ai travaillé à au département de Seine-et-Marne. J'ai fait déjà 3 interventions ici. J'ai travaillé en Catalogne, j'ai travaillé à Madrid, j'ai travaillé en Andalousie, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits différents avec des réalités très différentes. J'ai travaillé en France aussi à Valoris, qui c'est sur la Côte d'Azur. J'ai travaillé sur le Pas-de-Calais, dans une ville qui s'appelle le Touquet-Paris-Plage. Voilà, énormément d'endroits.
D'accord. Avec quelle œuvre avez-vous pris le plus de plaisir et pourquoi?
Moi, je crois que chaque œuvre est unique et en fait, on la vit chaque fois comme un grand amour, c'est-à-dire comme quelque chose de complètement unique et presque, entre guillemets, virginal. On découvre un territoire, on entre dedans, on fait quelque chose et après on part. Donc, il y a un processus qui est très fort au niveau de l'investissement personnel qui rend chaque projet unique. Donc, il n'y en a pas, quelque part, il n'y en a pas un meilleur que l'autre.
Quelle œuvre que vous avez fait est la plus gigantesque?
Alors, le projet le plus grand au niveau du nombre des bougies, c'est exactement celui de Lausanne, avec 127 444 bougies. Mais le fait que ce soit le plus grand, ça ne veut pas dire ni le meilleur, ni le plus spectaculaire. Hein. C'est juste simplement qu'il y avait le plus de bougies. Mais... chaque territoire est intéressant en lui-même, donc il y a beaucoup d'avantages et d'inconvénients dans chaque territoire. Hein. Il n'y a pas des territoires qui soient neutres. Et donc voilà, maintenant je suis à Mélan, mon projet préféré c'est Mélan, parce que je suis là, je veux dire, je vous vois vous devant, etc., je vous vois pétiller. C'est ça qui est important, hein. C'est tout le relationnel humain qui va avec chaque projet.
Votre projet avec plus de 100 000 bougies,
ouais.
Vous faites, j'imagine, avec une équipe?
Oui, toujours. Toujours. Même un projet très petit, j'ai fait un projet avec 550 bougies, je crois. C'est très petit. On le faisait dans un lac de montagne à 2000 mètres. Et puis, aussi, là, il y avait une équipe. Hein. C'est toujours un travail d'équipe parce qu'il y a toute une logistique, il y a... le relationnel qui va avec. Donc moi, je ne peux pas être sollicité en permanence par 50 ou 200 personnes. Et donc, il faut toujours d'autres gens qui m'épaulent pour construire ça, pour les relations avec la presse, pour les relations avec les médias, pour le site internet, pour... Voilà, c'est infini. Juste pour vous donner encore un petit commentaire, quand vous avez une copine ou quand vous avez un compagnon ou vous êtes amoureux, cet être-là est unique au monde, d'accord? Moi, quand je suis dans un projet artistique, je suis amoureux de projet artistique. Pour moi, c'est le seul projet qui compte. Hein?
Est-ce qu'à travers vos œuvres, vous essayez de faire passer un message?
Ah bon, ça c'est sûr, sinon je ne le ferais pas. Hein. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde tellement injuste, et tellement difficile, et tellement dysfonctionnel, que c'est clair que l'activité artistique, inévitablement, va mettre le doigt dans ça, dans ce dysfonctionnement, et donc il va être un art engagé, d'une façon ou d'une autre. Maintenant, il y a beaucoup de possibilités d'être engagé. Il y a des gens qui font un discours plus politique que d'autres, mais ce n'est pas parce qu'on fait un discours soi-disant non politique qu'on n'est pas engagé. L'art questionne la société par définition.
D'accord.
Quand vous faites des projets comme ça, c'est vous qui choisissez la forme ou elles vous sont imposées?
Alors, ça dépend. Ça dépend. Dans ces projets concrets, d'accord, il y a... deux étapes, même trois presque, on pourrait dire. Il y a des miniatures qu'on fait au début dans des quartiers et les formes qui seront faites dans les quartiers dépendent un petit peu et du quartier et des habitants du quartier. Donc là, il y a une grande latitude de faire beaucoup de choses différentes. En l'occurrence, moi, j'arrive toujours avec une idée pour si jamais, mais si les habitants me proposent une autre chose qui me semble valable, il n'y a aucun problème. Pour le projet de l'avant-première qu'on fait devant l'hôtel du département, là j'ai déjà une forme assez bien conçue parce que je connais bien l'architecture maintenant et je sais comment je vais structurer ce territoire. Et puis pour le projet définitif du 8 septembre aussi, hein, nous avons ce dessin-là qui est le point de départ sur le No Man's Land, c'est une vue aérienne des tranchées. Et je vais travailler sur cette idée de No Man's Land par rapport à cette commémoration, hein, célébration. Un artiste et l'échec, c'est un binôme. Hein? Un artiste échoue en permanence, si on peut dire comme ça. Parce qu'il y a toujours des défauts. Et puis, nous, les artistes, nous les voyons beaucoup plus grands que ce qu'ils sont. Hein? Il faut faire un deuil par rapport à ce qu'on a rêvé. Mais pour répondre à ta question très concrètement, parce que je pense que tu pensais à un échec retentissant comme ça, oui. Par exemple, il y a un jour qui faisait tellement de vent qu'on ne pouvait pas allumer une seule bougie. Donc, effectivement, ça, on pourrait appeler un échec, soi-disant, quand même bien le relationnel qui allait avec, ce n'était pas un échec, parce que les gens, ils ont lutté pendant 2 heures pour essayer d'allumer. Et donc, cette résistance qu'on a offerte au vent a une valeur aussi artistique. Et dans ce sens-là, ce n'était pas un échec. OK, tu vois, donc c'est des façons de regarder la chose, mais c'était un moment douloureux, ça, je dois le reconnaître. Hein.
Travaillez-vous uniquement à plat ou pourriez-vous envisager de créer des projets en volume, par exemple en 3D?
Je crois que je suis quelqu'un, malheureusement pour moi, de la deux dimensions. Je travaille en papier beaucoup, en toile aussi, mais c'est toujours donc contre un mur. Et puis, bien sûr, les bougies, je les mets toujours par terre. C'est très rare que j'essaye de rêver à... C'est pas si... parce que ça me vient instinctivement comme ça ou parce que je suis très attaché au fait de mettre le pied sur terre, comme on dit métaphoriquement. Mais le cas, c'est que j'ai tendance à mettre toujours les choses à l'horizontale. Quand bien même, par rapport à ça, des fois, je cherche des points de vue en plongée, à l'oblique, et donc, tout à coup, là, je suis dans une 3 dimensions.
Oui, mais par exemple, si un jour vous imaginez une sculpture avec des bougies en 3D, vous allez la faire?
J'ai tendance à chercher beaucoup la simplicité.
D'accord.
Et par ces mêmes, donc, moi j'ai un ami artiste qui travaille avec des bougies aussi, et lui il les suspend, mais quand je vois la quantité de bardas qu'il doit utiliser, des chaînes, des trucs, des ficelles, juste pour faire tenir tout ça, ça me fatigue déjà avant de commencer. Donc j'essaye en fait d'éviter cette fatigue, c'est-à-dire d'aller à l'essentiel, et pour moi l'essentiel c'est le feu. Le feu généralement on le met par terre, ou sur une table, donc voilà, j'essaie de travailler à ce niveau-là.
Vous êtes plus un artiste simpliste qu'un artiste complexe.
Oui, bon, dans la philosophie artistique, il y a une idée qui vient d'un philosophe du 19e siècle, je crois, je l'ai dit en anglais, « less is more », c'est-à-dire le moins, c'est le plus. Et moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire plus c'est simple, mieux c'est.
D'accord.
Dans le futur, est-ce que vous pourriez mobiliser une ville toute entière pour faire un projet?
Je ne sais pas si j'aurai l'énergie, dans le sens que ça fait beaucoup d'années que je fais déjà des activités comme ça, et puis je sens aussi une certaine fatigue émotionnelle s'ancrer en moi, donc je ne sais pas si je suis à même de le faire. C'est difficile. Moi, j'essaie de ne pas trop penser au futur, dans le sens que les projets présents, ils me prennent déjà une telle énergie que mon seul projet que j'ai maintenant devant moi, c'est une demi-année sabbatique, d'accord? De se dire, je vais faire une pause parce que je suis vraiment très fatigué par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais le faire parce que je me connais et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose et bien, je vais redémarrer au quart de tour, peut-être. Aucune idée. Mais l'idée, pour le moment, ça serait de faire un break comme ça, comme on dit en français.
D'accord. Est-ce que vous êtes rémunéré?
Alors, pour le projet d'ici, oui. Et généralement, tous les derniers projets, je suis payé pour. Je n'ai fait beaucoup avant, on pourrait dire gratuitement, c'est-à-dire que j'ai assumé les risques et périls, donc j'ai gagné généralement zéro argent. Ma famille n'était pas très d'accord. Et donc, au bout d'un moment, on a assez résigné à gagner de l'argent quand même, parce que sinon, la vie est trop difficile. Et donc, voilà.
Outstanding quality they brought to their music was total belief in the music, total belief in themselves.
Comment va s'organiser le projet de Melun?
Ouf, ça c'est un gros projet, ça fait déjà une année qu'on y travaille dessus. On a dû faire en fait un avant-projet pour faire valider un budget au niveau du département. Et enfin on a eu ce budget validé, maintenant on travaille dans le projet concret à partir de l'avant-projet. Et c'est un processus qui est complexe parce qu'il y a beaucoup d'intervenants.
Ouais, mais par exemple vous pouvez nous détailler les étapes?
Ok, oui, bon, une première, je l'ai détaillé déjà, toutes les miniatures préallumage, d'accord. Ça, c'est au niveau artistique.
Vous les avez déjà
au niveau, non, ils sont devant nous, mais on va commencer ce samedi et il va s'étaler d'ici à fin juin. Ok, ça, c'est une partie. De l'autre côté, tous les instrumentistes, ils sont en train de répéter. Tous les choristes, ils sont en train de répéter. Donc, eux aussi, ils ont mis les bœufs et les chats et la charrue derrière pour faire avancer le projet. Il y a toute la partie logistique, c'est les gens qui m'accompagnent là derrière qui s'occupent de toute la logistique. Il faut s'imaginer qu'au niveau et du budget et de l'énergie, les trois quarts du projet sont la logistique. Donc, comment construire les gradins, comment valider la scène, comment organiser le transport de toutes les choses, comment faire venir les bougies, comment les payer, etc. Tout. Il y a beaucoup d'aspects qui sont logistiques purs. Et puis, voilà. Et après, on va ramasser le tout sur un élan commun quand tout le monde a travaillé depuis son côté. Et cette synthèse, c'est faire avant le 8 septembre et le jour J, bien sûr.
Est-ce que, par exemple, est-ce que plus votre œuvre elle est grande, plus vous serez payé ou ça marche autrement?
Non, ça marche autrement. Ça marche autrement. D'un côté, quand un projet symboliquement est très important aussi, ça veut dire que les organisateurs aussi ils y accordent beaucoup de valeur, ça va donner un budget beaucoup plus grand. Ici, en l'occurrence, comme c'est une commémoration pour la fin de la Première Guerre mondiale, et donc ça a été un événement grandiose mais catastrophique aussi pour beaucoup des Français, donc c'est quelque chose qui émotionnellement a une telle valeur que donc le département il va y mettre le gros paquet, d'accord, parce qu'ils y tiennent beaucoup, que ce soit quelque chose de digne, de monumental, etc. Tandis que quand c'est un projet un peu moins important, imaginons une fête de village, un truc comme ça, ça sera un budget beaucoup plus petit et anecdotique.
D'accord. Et les bougies que vous utilisez, vous les laissez là où vous les avez pris ou vous les réutilisez?
Alors, non, on utilise en fait des photophores en PVC qui peuvent être utilisés deux fois. Des fois, on les utilise deux fois, mais des fois, ça ne sert à rien de les transporter parce que la manutention est trop chère et donc à ce moment-là, on doit les jeter ou les recycler.
D'accord.
En l'occurrence ici, pour une fois, on va utiliser des bougies en verre et donc le verre va être recyclé avec le verre.
D'accord. Est-ce que par exemple, c'est une idée, est-ce que par exemple pour vos bougies, vu que l'ennemi un peu du feu, ça va être le vent,
oui.
Vous pourriez mettre un espèce de bocal dessus, comme ça on voit toujours la lumière de la bougie,
okay.
Et en même temps le vent ne va pas balayer le feu.
Alors l'idée est très bonne, le problème c'est que techniquement est très difficile. Très difficile à faire avec les éléments qu'on a. L'idéal, ça serait une bougie qui fasse cette forme-là.
D'accord.
OK. Qu'est-ce qui se passe que cette forme de poire est ingérable au transport, ingérable à les empiler, etc. Donc, ça crée des volumes colossaux. C'est très cher à payer, en fait. Et donc, on ne peut pas se le permettre. On pourrait dire qu'une bougie comme ça, qu'on vient de décrire à deux, entre toi et moi, c'est une bougie qui coûterait 5 euros pièce et nous devons travailler avec des bougies qui coûtent 70 centimes d'euros pièce ou 50 centimes d'euros pièce, d'accord? Donc ça te donne une idée de la différence, donc il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre réellement.
D'accord.
Merci Mema Solar d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Notre émission est à présent terminée. Nous espérons cette émission vous a plu. Vous étiez en compagnie de
Michael,
Salim
et moi-même Athanel. À très bientôt sur Radio TV Capucin. Restez branchés. Au revoir.
Au revoir. I think that the outstanding quality they brought to the image was total belief in the music. Total belief in themselves. I think that the outstanding quality they brought to their music making was total belief in the music, total belief in themselves.